à cet événement qui est la 110e conférence MIDI du centre depuis qu'on l'a créé. Et autrement dit, il y a un rythme. Et parce que nous ne sommes pas très nombreux et nombreuses, je vais vous proposer de vous présenter simplement, de dire dans quel département. Il y a plusieurs personnes qui veulent se joindre à nous, qui vont peut-être être en retard. Et s'ils ne viennent pas, la conférence et la commentatrice seront enregistrées. Mais en passant, je travaille avec une équipe qui arrive avec les moyens du bord de faire une très bonne une série de conférences. Donc, la personne à ma droite qui va se présenter est une des personnes de l'équipe.
Bonjour, je m'appelle Malika Lamican, je suis étudiante en évaluation en mémoire à l'Université du Québec à Montréal, département de sciences politiques, et je m'occupe des événements du centre de gestion des services.
Oui.
Myriam Chotard, je suis issue du programme cours de deuxième cycle en RSO, responsabilité sociale de l'organisation, et je suis actuellement en maîtrise de communication, mais pour me spécialiser dans le domaine de la RSO, entre autres. Ouais.
Merci.
Juste à part.
On peut passer à la personne à côté de
nous. Bonjour, je m'appelle Claude Allard, étudiante et étudiante chercheur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale.
Bonjour, je suis la chef stagiaire postdoctorale au Centre Causse, à l'ESGU,
Je suis à l'ESGU, moi aussi, je suis Louis Langevilliers, chargé de cours à l'ESG et aussi agent de recherche dans son projet avec Laura Lambois-Risalta au Centre de Causse.
Nabil Lalou, étudiant au baccalauréat au Centre politique.
Bonjour, moi je suis Suzy Boulanger, je suis coordonnatrice au service.
Alors, pour présenter nos conférenciers, deux mots d'introduction. Comme les personnes autour de la table le savent très bien, il est de plus en plus question d'enjeux de responsabilité sociale, d'acceptabilité sociale des entreprises et aussi des normes auxquelles les entreprises devraient se conformer afin de maîtriser les impacts négatifs, que ce soit donc, environnementaux, santé, etc., qu'elles peuvent parfois et assez souvent avoir sur les populations concernées. Et dans ce domaine, le secteur extractif, sur lequel on est plusieurs à travailler, a fait en sorte qu'il y a d'une part les perspectives des communautés concernées, qui, ces perspectives diffèrent fréquemment de celles des promoteurs qui n'internalisent pas le plus souvent ou ne prennent pas en compte nombre des externalités négatives causées. Les perspectives des communautés diffèrent aussi de celles des gouvernements qui, on le sait, voient d'un bon œil la possibilité de retombées fiscales à court terme. Donc, les préoccupations des communautés affectées peuvent répondre, on le sait, à des motifs divers, perte de leurs terres, perte de leur culture, impacts environnementaux, sociaux. Et leur perspective est intergénérationnelle, beaucoup plus dans le long terme, d'après ce qu'on a vu dans nos travaux, qui n'est pas habituellement la perspective des promoteurs ni des gouvernements. Donc, en ce cas-là, qui décide? Comment et sur quelle base déterminer la dimension temps qui doit être prise en compte, évidemment, dans la notion d'impact, dans les méthodologies des mesures d'impact? Continue toujours comme si on peut saisir ces impacts sans cette dimension quand on sait que les choses sur le terrain se passent très différemment. Nos approches d'impact, donc on peut se questionner, et on va le faire aujourd'hui, sont-elles appropriées et adéquates? Pour aborder ces questions, que fait le temps? Et tenter de formuler des éléments de réponse, ce qui nous intéresse le plus au point, sur la notion d'impact dans le domaine des secteurs, des activités extractives. On a le plaisir d'accueillir un collègue, Nicolas Merveille, que la plupart d'entre vous connaissent mieux que certains d'autres. Monsieur Merveille a un doctorat en anthropologie sociale de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il a travaillé sous la direction de Philippe Descola. Il est également titulaire d'une maîtrise, master's plutôt, spécialisée en ingénierie et gestion de l'environnement de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Depuis 2011, il a contribué à la création puis au développement de la direction de recherche et incidence de l'Université jésuite du Pérou. Il a également piloté la réforme et la refonte de l'enseignement des sciences au niveau de l'école primaire. c'est-à-dire des écoles primaires, 20 000 écoles primaires, au Pérou de 2012 à 2015. Ces travaux de recherche portent sur les dynamiques d'interaction entre trois termes clés, temps, nature, mesure. Monsieur Merveille, comme vous savez, est professeur régulier au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Son intervention d'une trentaine, quarantaine de minutes, tu verras, va être suivie par les commentaires de Madame Marie-Luc Harpin, doctorante en administration à l'École des sciences de la gestion, ici, et que je présenterai un peu plus longuement après. À toi la parole, Nicolas.
Ouais, merci.
Merci énormément à vous deux d'être parmi nous.
Comme on n'est pas énormément, je vais plutôt aller super vite sur la présentation parce que ça
mais
va
non,
être plus
mais
intéressant.
Non. On est intéressé, c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'il faut aller vite. On risque de rien comprendre si tu vas vite. Surtout avec un sujet comme ça. Lentement.
Bon, que fait le temps? C'est ma question. C'est, dans la présentation, c'est bien résumé que. Moi, je travaille maintenant depuis plus de 15 ans sur cette dynamique d'interaction entre nature, temps, mesure. Donc, je ne suis pas un temps intéressé à comprendre ce qu'est la nature, le temps ou la mesure, mais à comprendre la dynamique d'interaction entre ces trois termes. Et là, aujourd'hui, c'est un peu ce que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps, qui est en fait... je me partais trop vite, je vais d'abord vous parler de comment je pensais me organiser. Je vais dans l'introduction, je ne veux pas vous effrayer, mais en même temps, il faut que vous compreniez certaines choses au niveau conceptuel, donc je vais faire une clarification conceptuelle sur le temps. On va vite aborder la notion d'impact qui est celle qui est en règle générale utilisée dans ce qu'on a coutume d'appeler l'étude d'impact. Je vais vous montrer en quoi ça serait intéressant de changer la notion d'impact par la notion d'infection. Au niveau des sciences sociales. Et puis, je vais atterrir sur quelque chose de concret, parce que je ne suis pas philosophe, mais je suis anthropologue, donc je convoque des concepts de la philosophie, mais pour les appliquer sur le terrain. C'est-à-dire que je ne fais pas de l'anthropologie de bureau, mais de l'anthropologie de terrain. C'est-à-dire que moi, je vais sur les situations, puis j'essaye de les vivre avec les acteurs. Voilà. Donc, parler du temps, ben, le temps, c'est un vieil objet. C'est-à-dire que c'est un objet qui a été pris comme cible des analyses du monde académique depuis très longtemps. Ça a posé des grosses questions depuis toujours à l'homme. Et il est parfois vu comme un objet désuet. Alors que pour moi, c'est un objet fondamental, puisque quand on s'y intéresse, on constate rapidement que c'est l'instrument de pouvoir, que c'était l'instrument du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il organise et il aide à mettre en œuvre et surtout il contrôle. Et c'est comme ça que moi j'utilise et c'est comme ça que je rentre, enfin c'est ma perspective sur le temps. Il est désuet mais il est d'une grande actualité puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui Montréal est devenu le hub de l'intelligence artificielle, que l'Université de Montréal a gagné 92 millions de dollars via le projet Apogée et que Montréal a été considéré en septembre 2016 comme la première ville numérique au monde du fait de ses investissements. Moi, je ne suis pas intéressé à penser l'intelligence artificielle et le big data comme des nouveaux modèles économiques, sinon comme une réorganisation du temps. C'est une relation au temps qui est en train de se transformer. Cette révolution, elle est en marche et il faut absolument la comprendre. Alors, que fait le temps ? Bah, c'est une question, c'était la question de mon titre. Et puis, il faut qu'on y réponde à cette question, elle est vraiment importante. Pour le sens commun, c'est-à-dire pour toute personne qui vient à ce monde et qui est vivant, bah, le temps, il passe. Et ça, c'est une sensation qu'on vit tous. Le fait que le temps passe, il génère des émotions. Et ces émotions, elles peuvent très bien se traduire à travers une forme de nostalgie. Ou, au contraire, comme des formes d'envie ou de possibilité. C'est-à-dire que ces relations au temps, ce qu'elles vont créer, on va le voir par la suite, elles créent des temporalités. C'est-à-dire, c'est la diversité des relations au temps qui crée des temporalités. Les temporalités, ça n'est rien de plus et rien de moins que ça. Le temps vécu, le temps ressenti, c'est ce qu'on appelle les temporalités. Aujourd'hui, l'arrivée de ces nouvelles technologies, cette connexion des artefacts, fait que notre relation au temps change, puisque vous l'avez peut-être appris, mais en début d'année 2017, 35 traders se sont fait virer du Wall Street, puisqu'ils ont été remplacés par des machines, puisque les machines vont plus vite, calculent mieux. Et donc, c'était l'une des premières fois où on avait un cas d'application des répercussions de l'intelligence artificielle sur le secteur économique, non pas des ouvriers ou de la main-d'œuvre jetée, mais des puissants de ce monde. On l'a tous clair que le temps passe, on a quelque chose de moins clair, et ça c'est Henri Bergson qui nous le dit, c'est pas tant que le temps passe, c'est que le temps fait passer. Et ça c'est un nouveau aspect du temps, c'est un aspect non pas de phénomène temporel, mais un aspect de principe. Qu'est-ce qui fait le temps? Il fait passer. Il fait passer quoi? La réalité. Il fait passer le monde. Quelle est la fonction première du principe de temps? C'est créer de la durée. C'est ce qui permet que chaque instant est remplacé par un nouvel instant présent. C'est ce renouvellement du présent, c'est ce renouvellement de l'instant qui permet que tout n'est pas donné en une fois et d'un seul tenant. Et ça, il faut bien le comprendre quand on fait une étude d'impact. Pour vous montrer la différence entre le phénomène temporel ou le temps comme principe, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'aller dans l'art. Moi, je suis vraiment surpris de la manière dont le monde scientifique continue à ignorer les artistes pour penser ce qu'ils font. Or, je crois, et j'en suis convaincu, et je suis le promoteur du rapprochement avec le monde artistique pour penser mes objets et mon monde. Donc, ce que j'ai fait là, c'est vous montrer la vie d'un monsieur qui s'appelle Roman Opalka. J'ai mis une petite vidéo sur YouTube, on va voir ça 3 minutes. Vous allez voir ce qu'il a décidé de faire, mais ça matérialise très bien mon idée, puisqu'il va à la fois parler du temps comme principe et aussi du temps comme phénomène temporel. Dans l'instant précédent, ça marchait.
Ça vient, ça vient.
À Varsovie, lorsque Roman Opalka a peint en haut à gauche de sa toile le chiffre 1, et puis le 2, et puis le 3, jusqu'à la recouvrir entièrement. Aujourd'hui, 180 toiles plus tard, il a dépassé les 5 959 000 et continue de consacrer exclusivement sa vie d'artiste à numéroter son temps.
J'ai pris mon corps, ma durée, ma existence. Ce dont je l'ai dit comme elle sortait, sacrifice culturel et l'essence, la mise en corps de cette démarche fait une œuvre comme nous tous faisons une œuvre de notre vie. Chaque fois que j'ajoute un nombre, tout change. C'est une sorte de promenade, si vous voulez, où les pas sont conscients chaque fois, chaque pas. Et ajoute le poids de la durée de tous les pas que vous avez vécu. J'utilise même la mort comme instrument d'une œuvre pour finir, pour achever une œuvre. Je prends la mort comme outil.
En 1972, Roman Opalka décide d'ajouter au fond gris de chaque nouvelle toile 1% de blanc en plus pour l'éclaircir progressivement.
Si tout va aller bien pour moi, je serai environ après une dizaine d'années dans les blancs absolus. C'est-à-dire il y a une exaltation pendant une existence d'un peintre qui va tous les jours vers ce blanc-là pour avoir transformé des blancs picturaux à un blanc moral.
L'œuvre de Roman Opalka n'a qu'un seul titre, Opalka, 1965, de 1 à l'infini. Chaque toile est appelée un détail, chaque photo qu'il prend de lui quotidiennement, un extrême détail.
Il y a naturellement une performance, il y a un sacrifice dans cette démarche, mais c'est aussi vrai qu'il y a un bonheur. Ça n'a rien à voir, cette démarche, avec une sorte de sinistrose, tout va mal. Le contraire, c'est une émotion d'une existence qui se manifeste. C'est pas la tristesse.
Oh, je sterbe million.
Je vous laisse réagir après, mais j'ai besoin de continuer. Mais j'espère que vous avez accompli des choses. Ce qui m'importe moi dans cette vidéo, et ce qui est vraiment important chez Bergson, c'est que si on prend le temps comme principe, le temps n'évolue pas. Il fait toujours la même chose tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait passer. C'est ce principe d'un temps créateur, c'est ce principe d'un temps qui fait passer qui m'intéresse, moi. On va maintenant rentrer dans la notion d'impact. On vit aujourd'hui, de moins en moins, il y a de plus en plus de personnes qui le critiquent, mais on est encore dépendant d'une représentation physique de l'impact. C'est-à-dire qu'on doit convoquer la mécanique de Newton, où on a fait abstraction du temps pour expliciter des éléments qui s'entrechoquent et qui se transforment. C'est ça qui permet donc de mesurer, de calculer et de quantifier le niveau de transformation, le niveau d'incidence, le niveau d'effet, c'est-à-dire l'impact. Cette loi mécanique, elle est souvent basée sur la possibilité de trouver une relation de cause à effet. C'est une approche déterministe et souvent linéaire. Les critiques à l'égard de cette méthode ont amené petit à petit beaucoup de disciplines à penser les choses de manière conséquentielle, c'est-à-dire d'essayer de formuler des scénarios possibles. Donc on va travailler sur la notion de potentialité et on va tenter de déterminer l'univers des impacts potentiels, qu'ils soient positifs ou négatifs, par rapport à une prise de décision ou une action. C'est malheureusement une fois de plus porté par la linéarité, c'est-à-dire la logique linéaire qui permet quoi ? De quantifier. Puisque ce qui importe, c'est la production d'un chiffre ou d'un nombre pour pouvoir le comparer et déterminer dans une équation facile à monter qui s'appelle le coût-bénéfice, si ou non il est intéressant de mener tel projet, de mener telle activité ou de prendre telle décision. Donc le travail qu'on va demander à la personne qui va évaluer l'impact, c'est-à-dire de faire une étude d'impact, c'est de réfléchir avant tout à la question de la limite. Pour moi, les études d'impact, ce sont des techniciens des frontières. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à mettre en place un système, et ce système, il est délimité, et on le délimite par des frontières, pour tenter de ne pas rater le principal. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la richesse du réel, puisque dans ce cas-là, on considère qu'on n'y comprend rien, c'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de quantifier. Si vous avez l'occasion de lire cette encyclopédie de l'accès et des usages des ressources qui s'appellent des plaies, des barbelés dans la plaine de Lucky Luke, je crois que c'est le meilleur ouvrage qui explicite ce qu'on appelle les modalités d'accès et d'usage des ressources naturelles aujourd'hui. On n'a jamais rien fait de mieux depuis. Alors pourquoi moi je considère qu'il faut parler non pas d'impact mais plutôt d'infection? Ben, on est obligé de repartir, c'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs minutes de ma présentation sur la notion de temps créateur. C'est qu'il faut repartir de Bergson en disant si on remet le temps en jeu dans le processus d'appréciation d'un impact, on est obligé de penser les choses différemment. Le nœud, c'est la métaphore appropriée pour rendre compte de ce qui s'est formalisé au moment T et qui peut totalement se délier ou se transformer à l'instant suivant. On a écrit un article avec Marie-Lou qui est en processus d'évaluation, donc on ne peut pas trop vous en parler, mais on a trouvé une autre image qui est peut-être plus intéressante, c'est l'origami. Mais à ce stade, je crois que le nœud répond bien à notre idée d'un temps qui continuellement se réinvente d'un instant T à un instant T'. C'est pas rien d'annoncer qu'on souhaiterait plutôt penser l'impact depuis l'infection plutôt que la science physique, c'est-à-dire d'aller vers la biologie et d'accepter une migration du monde de Newton au monde de Pasteur. Puisque moi, quand je me suis intéressé à l'impact social des activités extractives, ce que j'ai découvert finalement, c'était des logiques d'infection et d'interdépendance. Ça n'était pas des impacts, c'est-à-dire des chocs ou des transformations, des modifications à un instant T, mais cet instant T devenait permanent puisqu'on ne repensait pas le rôle et le statut du temps. Donc la première chose qu'il faut faire quand on accepte de travailler à partir d'une vision épidémiologique comme je le fais, c'est de surtout ne jamais imaginer les frontières du système. Puisque moi, quand je commençais à travailler au sein d'une petite vallée des Andes au Pérou, je passais par les îles Caïmans, par la Bermude et par les comptes suisses de différents acteurs et parties prenantes qui circulaient autour des activités extractives. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs fois le tour de la planète et que si on se fixe des limites, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va rater le principal. Ça fait donc une très grosse différence de faire une étude d'impact ou de faire un suivi d'infection, puisque les compétences et les différentes procédures à l'œuvre pour faire une étude d'impact sont à peu près les suivantes. Il faut penser de manière atemporelle, il faut circonscrire, il faut mesurer, on mesure pour expliquer, et tout l'objectif de la démarche, c'est de contrôler. Cependant, quand on fait un suivi d'infection, on temporalise, on travaille hors cadre, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas circonscrire. On ne cherche pas à mesurer, ce qu'on veut, c'est évaluer. On ne cherche surtout pas à expliquer, ce qu'on veut, c'est comprendre. Et si on cherche à évaluer, à comprendre, c'est dans un objectif de dialogue et non pas de contrôle. Donc ce n'est pas le même métier. Dans le premier des cas, on suit une logique linéaire. Dans le deuxième des cas, on suit ce qu'on appelle une logique simplex. Il y en a ras-le-bol du mot complexe. Le mot complexe, on l'utilise tout le temps. Mon yaourt est complexe. Mon rasoir est complexe. Et on ne sait plus tellement à quoi ça correspond, le mot simplexité et complexité. Alors, il y a un monsieur très brillant, qui est professeur au Collège de France, qui s'appelle Alain Berthoz, et qui a dit, faisons la même chose que la nature. C'est-à-dire qu'on va simplexifier. Et simplexifier, ça s'oppose à simplifier. On va arrêter de simplifier et on va essayer de simplexifier. Simplexifier, c'est-à-dire garder la richesse des interactions entre les différentes variables qui permettent le changement et la vie. Je vous ai mis la bibliographie et son texte. C'est un texte de physiologie. C'est très difficile à lire, mais c'est brillant. Je pense qu'il faut essayer aujourd'hui d'enseigner à nos étudiants et à nos collègues d'être simplex. Mais moi, les assemblages qui finissent par être complexes, où je n'y comprends strictement rien, ça ne m'aide pas à réfléchir. J'arrive maintenant à l'orpaillage. C'est un orpaillage qui est informel et illégal, qui se déroule au milieu de l'Amazonie, à la frontière brésilienne, au Pérou, Amérique du Sud. Ce sont des photos qui sont prises en hélicoptère, donc vous voyez un petit peu des friches, des trous. Ça, c'est le travail des orpailleurs. Et puis, vous voyez une photo où c'est un camp d'orpaillage et les conditions de vie, puisque faut imaginer 40 degrés de chaleur et puis un taux d'humidité extraordinaire avec des bestioles qui volent que vous n'auriez jamais voulu rencontrer. Et ça, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on appelle l'impact environnemental. Et on a facilité à le voir, ça suit bien le monde de Newton et c'est tout à fait compréhensible. Même si ça vaudrait quand même le coup de réfléchir un peu en termes d'infection. Il y a un coût économique, un impact économique du fait d'avoir une production d'or illégale et informelle au Pérou, puisqu'elle est passée devant les activités illégales, devant la drogue. Et aujourd'hui, les sommes produites par l'extraction d'or illégale et informelle sont des chiffres plus importants que le trafic de drogue au Pérou. Sachant que le Pérou est devenu le premier producteur de feuilles au coca devant la Colombie depuis à peu près 5 ou 6 ans. Donc on annonce bien sûr des centaines de millions, et là je crois que même que ça se compte à peu près à 252 millions de dollars perdus pour l'État péruvien, puisque on a des routes du trafic de l'or illégal et informel qui sortent l'or du Pérou et où il n'y a pas de taxes. Donc il n'y a aucun droit pour les gens qui extraient l'or, mais en plus ça ne passe sous aucun système tributaire. Donc il n'y a pas de fonctionnement d'impôt. Donc, c'est du pillage. Il y a énormément d'études qui sont menées là-dessus. C'est très bien quantifié. On a des ordres de grandeur d'année en année. Et donc, on arrive à mesurer l'impact environnemental et l'impact économique de l'orpaillage. Moi, j'ai décidé de mesurer, et je m'en suis rapidement rendu compte que je ne pouvais pas le mesurer. Donc j'ai décidé d'évaluer l'impact social de l'orpaillage illégal et informel. Et à la différence de mes collègues, je ne suis jamais allé sur les camps d'orpaillage. J'ai décidé d'aller dans les écoles. Parce que j'avais une profondeur de temps. C'est-à-dire qu'en allant voir des enfants, je pouvais voir l'instant présent, c'est-à-dire le T présent, mais je pouvais aussi commencer à penser le devenir. Et j'observe la chose suivante, c'est dans 10 écoles de la capitale régionale de Puerto Maldonado, 80% des enfants vivent sans présence d'adultes du lundi au vendredi, sachant que les collèges peuvent être de 500 à 800 étudiants. Puisque ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui, c'est une migration des hautes terres, c'est-à-dire les mineurs des Andes descendent en Amazonie pour aller extraire l'or. Et donc vous avez un boom démographique au sein de toutes ces villes amazoniennes qui n'ont pas les infrastructures pour recevoir ces populations. Et vous avez des classes entières d'enfants de 6 à 11 ans qui sont du lundi au vendredi tout seuls. Ils sont avec les grands frères et les grandes sœurs qui ne sont pas majeurs. Le vendredi après-midi, ils partent sur les camps d'orpaillage. Ils extraient de l'or avec leurs parents. Ils rentrent le dimanche soir. Ils changent l'or dans les banques d'or. Et le lundi matin, ils ont en moyenne entre 1500 et 2000 dollars pour faire la semaine. Et ils sont 3 à 4 enfants, sans présence d'adultes, avec 4500 à 5000 dollars par semaine. Et là, si je m'étais fixé des limites, j'aurais arrêté, mais j'ai continué. Des putes russes, il y en a dans toute l'Amazonie péruvienne. Des bordels, des sites internet avec des vidéos en temps réel pornographiques financées par ces enfants. Ça court les rues. C'est-à-dire que moi, là, j'avais mis les pieds dans ce que j'ai appelé l'enfer. Et l'enfer, c'est l'instant T. Mais on peut imaginer le devenir. Les professeurs ne savent plus quoi faire puisqu'ils n'ont pas été formés pour répondre à ces enjeux. Un professeur gagne par mois moins d'une journée de travail d'un enfant orpailleur. C'est-à-dire qu'il n'est plus légitime, le système éducatif n'est plus légitime et les activités légales et formelles n'ont aucune légitimité pour ces gens qui se font des millions de dollars. C'est un autre système, ça s'appelle une sous-culture. Et cette culture, elle est en train de devenir dominante dans la région. C'est-à-dire, elle est la norme. Elle cadre. Elle structure. Elle change les éthiques. Elle modifie les valeurs. J'ai fait 10 ans d'ethnographie. J'ai vu la situation évoluer. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. On ne peut plus rien faire dans cette région. On a installé une boucle d'inviabilité. C'est comme ça que je la nomme. C'est-à-dire que toutes les logiques concourent à quelque chose de nouveau qui est tout à fait insoutenable et non durable. Le temps long n'existe plus. C'est maintenant, tout maintenant. L'idée de justice, elle est basée sur les rapports de proie de prédateurs. C'est le plus fort à raison. Et c'est comme ça que ça marche. Puerto Maldonado, c'est 100 000 personnes et ça grandit de 50 000 personnes chaque année. Et ces 50 000 personnes, il y a plus de 30 000 enfants. On a créé des boucles d'inviabilité. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui incapable de savoir où on va aller, mais on sait juste que la situation, elle est catastrophique. L'armée a été envoyée sur les sites. On a essayé de bombarder l'ensemble des sites miniers. Les mafias sont tellement fortes qu'elles remplacent les machines les jours suivants qui sont cachées dans la jungle brésilienne à 10 km de là. Suite au tremblement de terre d'Haïti, il y a eu une migration très forte des Haïtiens vers l'Amérique latine et ils sont actuellement à la frontière péruvienne. Ils espèrent rentrer au Brésil pour rejoindre la Guyane française. Donc on a des camps d'Haïtiens qui s'ajoutent aux populations d'orpailleurs. Et on a des nouvelles routes pour sortir l'or de manière illégale. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai jamais imaginé parler le français avec des Haïtiens à 5 km de la frontière brésilienne. Les populations autochtones sont franchement très intéressées d'apprendre un peu plus du vaudou. Puisque quand elles retournent dans leur communauté, elles ont des nouveaux trucs pour la sorcellerie. Et les spécialistes du vaudou haïtien sont très intéressés d'apprendre des nouveaux trucs des populations autochtones, donc ça s'appelle du métissage culturel. Il y a une nouvelle culture qui est en train de s'installer sur place et qui a trouvé une très belle source de financement, c'est extraire l'or. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde et on ne le connaît pas. Il y a juste que la démocratie, elle ne marche pas là-dedans. Nos valeurs n'ont aucune prise sur les leurs. Et la première question qu'ils vous posent, c'est pourquoi vous ne faites pas la même chose que nous, c'est quand même bien. Je veux juste vous dire que je vais vous passer mon PowerPoint, mais il y a un lien. En 2017, en janvier 2017, une ONG américaine, dont je n'ai pas gardé le nom, a annoncé que l'État péruvien avait perdu cette bataille. Cette bataille. Et que malheureusement, ils ne voyaient pas comment ils pouvaient aujourd'hui empêcher les choses évoluer comme elles évoluent. Le coût social est beaucoup plus important que le coût environnemental ou économique. Il faut se donner des nouvelles méthodes. Je ne peux pas considérer que ce qui se passe, c'est l'appel de l'impact physique, c'est de l'infection, c'est de la prédation, c'est de la contagion et c'est viral. Les gens s'écrivent en disant « je me fais des fortunes, viens travailler avec moi ». C'est-à-dire que le petit orpailleur devient entrepreneur, il a de la main-d'œuvre, il a plus d'argent pour investir et ça finit par être des espèces de petites et moyennes entreprises qui s'installent sur place. Donc il est central d'aborder ces questions à partir du temps, c'est-à-dire de se donner le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, puisqu'on n'a aucune capacité de l'appréhender par un chiffre. On ne comprend pas encore ce qui se passe. On est incapable de l'expliquer. mais on reproduit très bien ce qui s'est passé dans le Grand Ouest des États-Unis il y a de ça très longtemps. Et on retrouve exactement les mêmes schémas. Et c'est à chaque fois pareil. N'importe où sur cette planète, c'est comme ça que ça se passe. Et on le sait. Quand ça commence, on le sait que ça va se passer de cette manière. Et on n'arrive pas à modifier ces dynamiques sociales. Donc il y a beaucoup à penser vis-à-vis de ça. Et je crois que les outils d'analyse sont obsolètes. Il faut aller vers des choses nouvelles et innovantes. Voilà, je vous remercie.
Le souffle, tout ça. Et on va continuer à, et pas ouvrir comme on pourrait le faire, parce que je pense que
déjà,
Marie-Luc, vous avez préparé encore des éléments pour réagir. Et simplement pour dire que Marie-Luc Carpin est doctorante en administration, ici, comme j'ai mentionné, à l'École des sciences de la gestion. Elle est diplômée de McGill en génie mécanique et détentrice d'une maîtrise en développement durable appliqué de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et notre commentatrice a évolué au sein des milieux d'ingénierie, bravo, pendant 4 ans en tant que consultante, analyste de cycle de vie et enseignante, avant d'entreprendre sa thèse doctorale avec Jean-Pierre Rivret, si je comprends bien, à l'École des sciences à gestion, ici. Dans le cadre de la recherche doctorale, elle s'intéresse à la transformation du double regard de l'ingénieur, surtout nord-américain, à la société et l'entreprise. Elle espère ainsi comprendre l'invisibilité sociale actuelle.
C'est ça. Oui, oui.
De ce personnage, sinon, sur le fond prégnant de l'ère de l'information qui paraît pourtant construire sa centralité. Le projet de Marie-Luc s'inscrit par ailleurs dans le programme de recherche du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services de Polytechnique à Montréal et soutenu par une bourse d'études supérieures Canada Vanier. Merci beaucoup, Marie-Luc.
Merci à vous.
De réagir et nous donner le temps de réfléchir ensemble encore pour recevoir ces paroles.
Mais je vais essayer d'être brève parce que, comme on a vu, on a déjà assez pour se laisser aller dans des élans de, ben c'est ça, de réflexion. Mais je fais quand même le pont vers, justement, moi je travaille sur l'ingénieur. Et puis, un de mes terrains, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc, on comprendra que c'est une de ces méthodes d'impact, on pourrait dire, mais qui est un peu particulière, on va voir comment. Donc, l'ingénieur, juste pour faire le pont avec son invisibilité, là, c'est avec tous les outils du temps qu'il nous a présentés au début, on pourrait se poser la question, mais c'est qui ces dictateurs du temps? Il ressort clairement, en tout cas, quand on regarde aujourd'hui, le changement technologique a l'air de dicter le temps largement. Hein? Et puis, qui est derrière de ça? En arrière de ça, on pourrait penser les ingénieurs. Moi, je pense que non. Puis c'est là toute l'intrigue de l'invisibilité, en fait. Il y a réellement une espèce d'invisibilisation de l'ingénieur qui se passe. On le voit à travers notamment les discours institutionnels de l'ingénierie. Là, je pense à des MIT, des National Academy of Engineering. Qu'est-ce qu'on dit dans ces discours institutionnels? Nous montre que l'ingénieur n'est peut-être pas ce dictateur et puis qu'il y a beaucoup d'autres choses à comprendre derrière. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder juste au cas de l'ACV, brièvement, pour m'accrocher un peu à ce que Nico a dit. Donc, si... là où je voudrais en venir, c'est que ce temps qui fait passer la réalité, le monde, bien, je pense qu'il fait aussi passer des invisibles. J'ai parlé de l'ingénieur, mais en ACV, ce qu'on voit, c'est que... il y a vraiment quelque chose qui s'invisibilise à travers le fait qu'on perçoit le temps tout fragmenté, temporalité multiple, tout ça. Donc, je vous donne l'exemple. Donc, le déblocage qui est possible en ACV, je pense, à partir de ce que Nico a dit, en regardant la chose, en y injectant une dose de contagion, si on veut, là, de continuité dans le temps, eh bien, c'est une injection de sens pour ceux qui font l'ACV, mais aussi pour les interlocuteurs de l'ACV. Puis pourquoi? C'est parce que l'ACV, vous savez, vous connaissez peut-être l'outil, là, c'est une méthode de bilan environnemental, mais qui prend pour objet une chaîne de valeur. Donc, on est vraiment dans le monde, là. Allez donc marquer les frontières d'un système comme celui-là, c'est pas évident. Fait que la problématique de la frontière, elle est vraiment particulière en ACV. Néanmoins, l'enjeu dont nous parlait Nicolas, ben, il s'impose quand même. l'ACViste, le praticien de l'ACV, doit marquer les frontières. C'est la première étape, pratiquement, de la chose. Fait qu'il y a vraiment un paradoxe là, il y a quelque chose d'intéressant, d'où l'intérêt d'une démarche comme celle-là. Et puis, je pense qu'au niveau de l'environnement, on dit « c'est facile à connaître l'impact environnemental ». Je suis d'accord, sauf que là où il y a quelque chose à gagner de la contagion, c'est qu'en ACV, on se targue d'éviter le transfert d'impact. C'est quelque chose qui est la marque de l'outil. Hein. On veut éviter que, en réglant un problème à l'étape de production d'une voiture, on en crée un autre à l'étape de l'utilisation de la voiture. Là, on est dans un transfert d'impact en deux étapes. Mais il y a également le transfert d'impact de l'environnemental au social. Il y a le lien, la relation entre tout ça qui est super importante. Puis là, on voit clairement que c'est plutôt indissociable tout ça. On ne peut pas vraiment parler... En fait, il y a des endroits où on pourrait voir seulement de l'impact social, puis en fait seulement de l'impact environnemental. En le réglant, on crée un problème social. Bref, puis là, je pense à l'ordinateur réemployé au Québec, sans aller plus loin. Mais bref, il y a quelque chose là de très intéressant à faire. Et puis, donc, je me lance, là, pourquoi c'est intéressant le temps en ACV? Si on prend l'ACV comme un phénomène temporel, l'ACV, je pense qu'il y ait une construction temporelle qui est vouée à être comme périmée d'avance, hein, parce qu'une ACV, c'est super contextuel. Si on le sort de son contexte, ça ne vaut plus. C'est presque... En tout cas, c'est voué à être périmé d'avance. Puis le langage le traduit, ce rapport ambigu au temps-là, puis le fait que dans l'ACV, il y a multitemporalité. Le langage qu'on se donne parle d'impact potentiel. On n'est pas dans l'impact réel, comme une étude d'impact peut-être qui prétendrait l'être. On est vraiment dans un impact potentiel parce qu'on sait que c'est complexe, notre rapport à l'impact, qu'on n'est pas en train de traduire une vraie réalité. Il est contextuel. Parce que tout change très vite, changement technologique. Si on prenait littéralement l'ACV dans ce qu'il ne peut pas faire, dans ce qu'il dit qu'il peut faire, on n'en ferait jamais. Parce qu'il est déjà périmé à l'avance, en fait, vraiment. Là. Mais on en fait pourtant beaucoup parce qu'on y croit, il y a quelque chose là, il y a un sens, le projet à la base de ça, il est intéressant. Et puis, ce sens-là se perd à cause d'un rapport au temps qui n'est pas clair, à cause d'un manque de cette logique d'infection-là. Je vous explique comment il se perd, ce rapport, ce sens-là en ACV. Donc, je vous parle des multitemporalités. Il y a le temps de l'incertitude en ACV. On pourrait dire que c'est un temps qui est très consommé. Il y a full temps qui va à essayer de quantifier l'incertitude de la manière conventionnelle là, à laquelle on pourrait penser en science dure, si on veut. Là. Il y a beaucoup d'articles qui se produisent sur le sujet. Mais paradoxalement, dans les résultats, on ne voit jamais l'incertitude, on ne voit pas les barres d'incertitude. C'est quelque chose qui s'invisibilise parce que notre conception du temps est celle qui est concrète, qui est celle des sciences, qui est celle du devenir, qui est... en fait, c'est pas le temps comme principe, là, tu sais. Donc, il y a le temps de cette incertitude-là qui s'invisibilise, qui est très consommé, mais pourtant qu'on ne voit plus jamais. Il y a le temps du cycle, le cycle de vie en question. Là, on se rapproche de l'objet de l'étude. C'est sur toute la planète que ça se passe. C'est extrêmement complexe. Ça ne s'arrête jamais. Si on parle d'objet, tu sais, mettons un produit, un substrat horticole, il y a de la tourbe là-dedans. C'est un écosystème qui a sa propre temporalité à une certaine étape du cycle de vie, mais il y a d'autres temporalité aussi qui s'ajoute à ça au moment de la transformation. Fait qu'on est vraiment dans des chocs de temporalité qui sont difficiles à rallier. Puis ça nous amène dans le temps du modèle. Donc, il y a le temps où le modélisateur construit sa chose, qu'on appelle le modèle ACV. Il y a après le temps concentré de la restitution des résultats, parce qu'au moment de la restitution des résultats, tous les temps du cycle de vie sont « boum » mis ensemble sur une feuille, et puis ce qui s'est passé il y a très longtemps, ce qui se passera dans l'avenir parfois, c'est tout sur la même feuille à un même moment. C'est réellement comme ça que ça se passe une ACV. Puis ça, c'est également le temps de la décision, qu'on sous-traite un peu, qu'on dit « c'est pas de notre sort, nous, analyse de cycle de vie, la décision. Nous, on vous amène la connaissance, l'information, à vous de décider ». Mais la pertinence de l'ACV vient du fait qu'elle aide la décision. C'est là tout l'objet de la chose. Donc, vous voyez qu'il y a multitemporalité. Donc, dans l'idée de redonner au temps sa durée, son pouvoir créateur d'indétermination, dans le fond, c'est ça que ça crée, c'est de l'indétermination. Ça change la notion d'incertitude, puis ça permet de la nouveauté. Bien, j'ai l'impression qu'il y a une clé, pas pour abandonner la notion d'impact en ACV, mais pour lui redonner du sens. Et puis, je pense particulièrement ici, en redonnant du sens aux gens, aux personnes qui sont dans l'ACV, puis au premier sens, au premier chef, les analystes qui font l'ACV, c'est à travers leur discours qu'on se rend compte que le sens se perd le plus. Et puis, il y a aussi les interlocuteurs auxquels Nico a parlé, évidemment, auxquels on parle jamais à personne quand on fait une ACV pratiquement, sauf peut-être à l'entreprise, à l'avant-plan qu'on appelle, à cette chaîne de valeur très, très contrainte au niveau du client, là, tu sais, dans le fond. Donc, c'est ces praticiens-chercheurs, puis ces chercheurs-praticiens, puis ces seulement praticiens qui sont tenaillés entre les impératifs de gestion qui donnent la légitimité puis la pertinence à l'outil, et puis les impératifs de science qui donnent la crédibilité à l'outil. L'ACV, sa marque, elle est « science-based ». C'est pour ça qu'on fait de l'ACV, notamment. Donc, ce qui se perd avec le temps concret en ACV, le temps, comme on le conçoit sur une ligne de temps, typiquement, puis c'est le temps de la science, hein, mais c'est aussi le sens commun, le temps du sens commun. Ce qui se perd, c'est les valeurs des ACVistes derrière les ACV, et puis c'est les interlocuteurs, comme je disais. En ce sens, le suivi d'impact à une étape ou à une autre du cycle de vie, le suivi d'impact, comme lui en parlait là, en termes de contagion, d'infection, ça répondrait aux besoins d'une communauté qui est comme prise entre le sens de ce qui est fait, parce que les ACVistes s'embarquent en ACV pour le sens de l'outil. On est engagé environnementalement parlant, mais ça se perd tout ça, puis c'est ce qu'on voit dans les discours. Donc, on est tenaillé, on est pris entre le sens de ce qu'on fait et puis la connaissance que ça doit produire. Là, ici, moi, je parle d'une épistémologie qui est un peu informelle, qui est très ancrée dans le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. On veut aider à changer le monde, on veut aider à régler des problèmes. Puis là, on peut parler du modèle comme une œuvre vivante. Je pousse la logique un peu parce qu'on est vraiment plus dans une épistémologie qui vient... tu sais, on s'éloigne de la logique des sciences traditionnelles, là, mais... il y a réellement des valeurs d'analyse de cycle de vie qui s'injectent dans les modèles. Puis ça, on nie cette réalité-là complètement. Et puis, l'épistémologie institutionnelle, l'épistémologie de la science qu'on connaît tous, celle qui est affichée par l'ACV, puis celle qui le fait vendre, eh bien, l'analyste est tiraillé entre ces deux réalités-là, puis c'est pas facile à vivre. Et puis, une approche comme celle-là, ça a le potentiel de faire que ben, l'ACV, l'impact en ACV retrouve son sens, et puis que les praticiens aient plus envie de démissionner, là, pour le dire simplement, là, parce qu'il y a une réelle débandade dans les discours. J'en ai amené des extraits, là, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, là, mais c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement, moi, c'est comment on résout la tension entre le sens et la connaissance en ACV. Puis cette tension-là, on peut la voir devenir paradoxale. Elle n'est pas seulement de l'ordre de la divergence composable ou du dilemme, là, qui est déjà violent, mais le paradoxe peut s'injecter là-dedans de plein de façons. Puis je pense que là, il y a une réelle clé. Maintenant, là où je me pose des questions, puis j'arrête après ça, là, c'est la possibilité de faire travailler ensemble ces deux logiques-là, justement. Est-ce que dans une approche où le temps retrouve sa durée, devient pouvoir créateur et tout. Moi, je vois un parallèle fort dans ce mouvement-là là, qui nous crée de l'indétermination. On perd le contrôle, puis on l'accepte, cette perte de contrôle-là. Je vois un parallèle avec la pensée puis le jugement chez Hannah Arendt, par exemple, qui est un luxe aujourd'hui, qui s'impose en temps de crise. Seulement, c'est ce qu'elle disait dans La condition de l'homme moderne, pour je le fais vraiment très bref, là. Et puis, autant chez Eichmann, on a absence de pensée, autant trop de pensée, ça peut rendre fou. Parce qu'on pense toujours, on remet tout en question, on est toujours dans la critique du monde, on est toujours dans le maintenant, on n'est plus utile à rien en vertu des critères actuels. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, si je pousse la logique, comment est-ce que ces deux manières de concevoir l'impact peuvent travailler ensemble. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, mais des fois, je vois mal comment c'est possible du fait qu'on dirait qu'ils viennent d'univers complètement distincts, et puis surtout aujourd'hui avec l'arrière-plan qu'on connaît. Bon, voilà, c'était mon commentaire. Je m'arrête. Merci.
Merci.
Très, très intéressant. Bon.
On peut faire un tour d'étape.
On peut faire un tour d'étape, mais je voulais simplement dire que la manière que vous nous avez projeté dans, parce qu'on vient de disciplines peut-être différentes que vous, ton discours est presque poétique et philosophique, et ça a une résonance pour des gens qui travaillent sur ces enjeux, mais à beaucoup de niveaux. Alors je vous remercie les deux pour une très belle présentation, parce que je crois que ça nous rejoint à beaucoup de niveaux, avec des mots et une émotion qui, je crois, aide beaucoup à nous faire avancer ensemble. Mais le tour de table, je ne veux pas l'imposer et obliger les gens à dire quelque chose, peut-être une réaction, ou peut-être quelqu'un qui aurait